Nous avons fait le point avec le président du FASO, on fait le point d'un certain nombre de dossiers, mais avant d'évoquer les dossiers techniques, nous avons souhaité marquer notre solidarité à l'endroit du président lui-même, mais également à l'endroit du peuple burkinabé qui traverse des moments difficiles. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire à Monsieur le Président, c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît les siens. Et la BOAD fait incontestablement partie des proches du peuple burkinabé. Alors, après ce sujet, nous avons évoqué un sujet que le président connaît parfaitement bien, qui est celui de notre augmentation de capital. Alors, ce n'est pas simplement un sujet technique, c'est également un moyen qui va permettre à la BOAD d'augmenter très largement sa capacité de financement dans la zone et singulièrement de sa capacité de financement du plan national de développement économique et social. Alors, nous avons évoqué ce troisième point avec Monsieur le Président. Nous avons confirmé l'intérêt stratégique de la BOAD à contribuer à financer ce plan. Ce plan national de développement, nous avons donné des ordres de grandeur sous réserve, bien évidemment, de la confirmation de notre comité de crédit et de notre conseil d'administration. Et enfin, nous avons partagé avec le président nos engagements sur l'aéroport de Donsin. Et dernier point, nous avons partagé cette excellente nouvelle qui est l'amélioration de la notation internationale de la Banque Ouest-Africaine de Développement par l'agence Fitch, qui traduit le fait simplement que notre zone, du point de vue économique, se porte bien, que la BOAD, dans le cadre de son plan stratégique, bénéficie du soutien de ses actionnaires, et singulièrement de ses actionnaires régionaux. Ceci est de bon augure, et c'est cela qui a été transcrit par cette amélioration de la notation de la BOAD par l'agence Fitch, qui passe maintenant de perspective négative à perspective stable. C'est une bonne nouvelle que nous avons souhaité partager avec Monsieur le Président.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Fobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Djamila, c'est Topin.
Au sommaire de cette édition, attaque d'Inata, le bilan est revu à la hausse. Il passe à 57 morts. Donc 53 gendarmes et 4 civils. Et justement, on parlera de cette attaque meurtrière d'Inata qui a durement éprouvé le Burkina avec notre éditorialiste Maison Ouézin Louis Houlon. À Kaya, le convoi de l'armée française en partance vers le Niger a été empêché de continuer son chemin. Après plusieurs négociations, le convoi a été obligé de replier. À Ouaigouya également, des milliers de manifestants sont sortis pour traduire leurs ressentis face à la crise sécuritaire. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Morts, dont 53 gendarmes et 4 civils, c'est le nouveau bilan de l'attaque contre les détachements de la gendarmerie nationale d'Inata, a affirmé ce vendredi soir à Omega, une source sécuritaire bien placée. Le gouvernement avait annoncé mercredi à l'issue du Conseil des ministres 53 morts, dont 49 gendarmes et 4 civils. Après l'attaque d'Inata survenue le 14 novembre dernier dans le Somme, région du Sahel, qui a fait 57 morts, dont 53 gendarmes et 4 civils selon le dernier bilan, les Burkinabés attendent des réponses. À cet effet, l'Assemblée nationale a décidé d'interpeller le gouvernement à travers des questions orales avec débat à l'hémicycle le mardi 23 novembre 2021 à 16h. Et vous le savez, cette attaque à Inata a soulevé une vive émotion dans tout le Burkina Faso. Des populations qui crient leur ras-le-bol face à la recrudescence des attaques. révoltés, des Burkinabés sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère. À cet effet, à Kaya, le convoi de l'armée française en partance pour le Niger a été empêché de continuer son chemin. En effet, un blocus a été installé depuis le jeudi 18 novembre par les jeunes de la ville de Kaya. Pour parler justement de la situation, nous avons joint notre correspondant depuis Kaya, Wilfried Dambré. Alors, quelle est la situation qui prévaut actuellement à Kaya?
Alors, il faut dire que la situation, elle est toujours délétère sur place à Kaya. Le convoi de l'armée française a été repoussé de presque 5 kilomètres. Alors, ils se sont retranchés sur un ancien site de carrière. C'est là-bas qu'ils se sont retranchés. Alors, mais la population qui était sortie vraiment pour faire barrage à ce cortège-là a suivi ce cortège pour venir se retrancher également à 5 kilomètres. À l'heure où nous vous parlons, ce même cortège est presque encerclé, si on peut le dire, parce que les jeunes, ils sont toujours là et ils n'entendent pas baisser les bras tant que ce convoi-là n'a pas repoussé par la chemin. Si l'on revient pour vous faire un peu la genèse de la situation, c'est hier peu avant midi que ce cortège-là est arrivé à Kaya, à l'entrée de Kaya, et a été immédiatement stoppé par les manifestants qui ont même veillé toute la nuit au niveau de la sortie de Kaya avec ce cortège-là. Et notons que ces jeunes ont eu le soutien de presque les deux autres provinces qui composent la région du Centre-Nord, notamment Namensenga et de Pam. Les jeunes sont venus de Boulsa, également de Congo-Kinshasa pour pouvoir se joindre à la lutte qui se passe actuellement à Kaya. Également, un autre soutien de Kaya, il faut savoir qu'ils ont été ravitaillés par je ne sais qui, d'autre part des commerçants qui ont aidé ces jeunes-là à pouvoir avoir à manger. Alors, la nourriture s'est préparée ici, l'eau venait ici, même le pain venait ici pour pouvoir aider ces jeunes-là dans la lutte. Et ce matin, c'est peu avant midi, alors que le cortège a décidé de reculer carrément à la sortie de Kaya pour se retrancher. Les jeunes sont toujours sur place, ils n'entendent pas bouffer les bras comme je l'avais déjà mentionné. Alors, nous attendons la suite de l'histoire. Notons que le gouverneur a envoyé son secrétaire général hier qui est venu négocier. Ça n'a pas porté de fruit. Hier, ce matin, c'est le gouverneur lui-même qui était sur le terrain. Ça n'a pas porté de fruit également. Alors, les discussions et les négociations continuent, mais selon les manifestants, c'est très difficile de trouver une issue favorable pour pouvoir continuer de l'avant. Sauf que si c'est pour reculer. Wilfried Dambré, Kaya, pour Radio Omega.
Merci à notre correspondant Wilfried Dambré. À Ouaigouya également, des milliers de manifestants ont répondu à l'appel de l'organisation de la société civile, mouvement sauvant le Yatinga. Ils ont fermé boutiques et marchés pour descendre dans les rues afin de protester contre la dégradation de la situation sécuritaire dans la région. Ils ont scandé des slogans « Libérer Kossiam ». Le mouvement populaire du 3G, en abrégé MP3, était face à la presse ce vendredi 19 novembre à Ouagadougou. Le mouvement a fait une lecture croisée de la situation nationale, notamment sur la question sécuritaire au Burkina Faso, et n'a pas manqué d'interpeller l'autorité à prendre des mesures pour protéger les Burkinabés. Le point avec Abdoul Kader Konaté.
Les jérémiades se poursuivent au sein de certaines organisations de la société civile. On ne passe pas par quatre chemins pour exprimer son désarroi vis-à-vis des maux qui minent la nation burkinabé. Occasion saisie par le MP3, le mouvement populaire du 3G pour décrier la gouvernance actuelle du Burkina et laisser entrevoir des manifestations si la situation perdure. Marc Bonogo, porte-parole du MP3.
Notre pays, le Burkina Faso, traverse en ce moment les périodes les plus horribles de son existence. Plus de 2000 morts avec des familles abandonnées dans la misère et dans l'indifférence totale de nos dirigeants. L'attaque meurtrière du dimanche 14 novembre dernier contre le détachement de la gendarmerie de Inata est venu nous rappeler notre fragilité à un mal terroriste.
Si le président du Faso ne prend pas des mesures urgentes, concrètes et palpables, on sera tenu donc de descendre dans la rue et puis d'exiger son départ.
Parmi les membres signataires du MP3 figurent les policiers et militaires radiés qui ont réitéré une fois de plus leur disponibilité à contribuer à la lutte, jugeant ainsi qu'il constitue une ressource humaine qualifiée, mais inexploitée par l'État. Arnaud Francis Kinané, Il est le chargé de communication des policiers et militaires radiés.
On refuse de dire à la population que parmi les radiés de 2011, il y a des moniteurs commandos qui ont eu même à former des gardes-corps de certains présidents actuellement dans la sous-région. Il y a des commandos parachutiques. Au niveau de la police, je vous dis, plus de la majorité a lutté contre le grand banditisme. Mais pourquoi ne pas réintégrer ces éléments-là pour renforcer leurs camarades au front? Ces gars, comme nous, nous sommes des professionnels. Nous nous exigeons à ce qu'on reprenne tous ces éléments-là. Nous nous disons au président du Faso que, étant dans la rue, nous ne sommes pas contents.
La problématique sur la vie chère ainsi que la réouverture des frontières a également été au menu des échanges et à ces questions, le mouvement dit veiller au grain pour s'assurer de l'effectivité des mesures qui seront prises.
Place maintenant à l'édito, comme tous les vendredis. Cinq jours après les attentats de Inata, les Burkinabés s'interrogent. Le président du Faso en tête, Lokman Christian Kabore, révolté d'apprendre que la troupe a manqué de rations alimentaires. Voici l'éditorial d'Omega Media. Il est signé Wizin Louis Houlon.
53 morts à Inata, c'est un drame. À vous couper l'appétit. Ce bilan est-il provisoire ou définitif? Jusque-là, le gouvernement ne dit pas quel était l'effectif du détachement, alors que ce chiffre ne devrait plus être à l'heure actuelle un tabou stratégique après le forfait de dimanche dernier. Les soldats ont manqué de garba, le fameux riz militaire, comme l'atteste cette fameuse correspondance, au sujet de laquelle Rockman Christian Kabore a tapé du poing sur la table. Nous ne devons plus entendre parler de questions d'alimentation dans notre armée. Nous ne devons plus entendre parler de questions de primes dans cette armée, a-t-il martelé. Rock est fâché et il n'a pas tort. Son entourage est-il sincère avec lui après avoir aménagé et réaménagé le commandement, allant jusqu'à concéder le principe de militaire dans l'exécutif, chose qu'il n'a jamais souhaitée, il en vient à découvrir que les boys sont affamés au front. Tout ne se dit pas au sein de la grande muette, mais assurément ici passent des choses bizarres. Les sanctions contre les commandants de la première région de gendarmerie et du groupement des forces du secteur au nord ne devraient pas manquer de nous interroger sur le fait qu'il était impossible de rallier Inata par la route. Impossible aussi pour la relève en attente à Djibo de monter au front avancé malgré les détresses lancées des semaines avant par le capitaine du groupe basé à Djibo. Pas vraiment surprenant, avec des couvre-feux et états d'urgence reconduits mécaniquement par des gouverneurs depuis 5 ans qui ne maîtrisent pas forcément les tenants et les aboutissants, qui ne sont que des boulevards ouverts aux groupes terroristes qui ensemencent des mines sur nos routes les nuits venues, devant l'incapacité des FDS à quadriller le territoire entier alors que les populations pouvaient aider à la veille. C'est aussi la conséquence d'une stratégie de défense caserne que nous avons longtemps dénoncée et qui révèle ses limites malheureusement payées encore cash par les garçons, aussi bien formés et braves soient-ils. Il y a longtemps que les groupes terroristes ont compris cela et ont décidé de porter le harcèlement dans les dortoirs des soldats. Il y a longtemps que les djihadistes réclament le face-à-face, ce corps à corps tant attendu. Eux vont au front pour mourir, alors que nos soldats y vont pour retourner nourrir femmes et enfants. C'est la conséquence, enfin, de l'inertie d'une population civile qui a délégué sa sécurité à des professionnels des armes et qui ne se soucie de rien. L'urgence est aussi dans le déploiement des aéronefs dans les zones chaudes, de sorte à réduire les temps d'intervention. Prendre le dessus des renseignements est vital pour notre armée, bien consciente que qui détient l'info a le dessus, que l'effet surprise est une arme fatale, se rend aussi à l'évidence que toutes les attaques ont lieu à l'aube et au crépuscule, si préparées conséquemment, est un réflexe de survie pour la troupe. Rock sera-t-il entendu? Je dis et je répète, ces 5 mots du président Kabore sont assez évocateurs, disons-le, l'heure est grave.
Suite à l'annonce de la décision de la réouverture des frontières terrestres et ferroviaires prévue pour le 1er décembre prochain, une équipe de Omega Media a promené son micro pour recueillir les avis des citoyens. Ces derniers s'expriment au micro de Jean-Paul Ouedraogo et Hervé Mbayam.
C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça a même duré. On attendait ça depuis longtemps. Ça a été annoncé à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, on espère que ça serait la bonne. Voilà.
Pour moi, c'est une très bonne chose. Puisque dans notre pays, c'est le secteur informel qui domine. Donc, les commerçants, ils sont toujours pour aller amener des marchandises. Et comme les frontières étaient fermées, c'était difficile. Maintenant que c'est ouvert, c'est une très bonne chose parce qu'ils pourront faire leurs activités.
À propos de l'ouverture des frontières, là, moi, je vois que c'est des fausses histoires. Tout cela, le président dit ça pour pouvoir calmer la population. Mais ce n'est pas le moment. Si lui ouvre des frontières aujourd'hui que les autres n'ont pas ouvert, ça ne sert pas. Donc, ce n'est pas pour le moment. Il n'a qu'à résoudre ce qui est là présentement et laisser le problème de frontières, ça ne nous intéresse pas.
Et en tout cas, l'ouverture, c'est vraiment une bonne chose. Ça va permettre de soulager beaucoup la population. En tout cas, je trouve même que c'est une chose qui aurait dû être faite depuis longtemps. Mais bon, si c'est le moment que peut-être Dieu a voulu que ça soit fait, ok, Dieu merci.
Bon, la proposition d'ouverture des frontières, bon, c'est une décision qui est salutaire, mais ça aurait dû venir bien avant. Parce que pourquoi c'est maintenant que les frontières s'ouvrent? Alors qu'ils auraient dû le faire depuis avant. Maintenant que les populations sont en train de souffrir, bon, les prix des denrées augmentent. Je ne sais pas, qu'est-ce qui les a poussés maintenant à ouvrir les frontières? On ne sait pas quels sont les mobiles qui les a amenés à ouvrir les frontières maintenant. Quelque chose qui devait être fait depuis longtemps. Bon, c'est ça notre inquiétude, on ne sait pas pourquoi. Bah, mieux vaut tard que jamais.
Le 4e congrès ordinaire de l'Union panafricaine de la jeunesse s'est tenu les 15 et 16 novembre dernier à Niamey, au Niger. Le Burkinabé Moumouni Diallo a été élu à la tête de cette institution panafricaine. De retour au Burkina, il a rencontré les journalistes ce vendredi pour parler du déroulement des élections et aussi présenter les lignes directrices de son mandat. Elisabeth Yanogo et Aïna Tiemtouré.
L'Union panafricaine de la jeunesse a pour mission de porter les préoccupations des jeunes africains auprès de l'Union africaine. Le président élu a présenté 7 axes qui ont valu son élection. Entre autres, l'accompagnement de la résolution des crises, la mobilisation des ressources pour l'emploi et le renforcement du leadership féminin. Moumouni Diallo, président de l'Union panafricaine de la jeunesse, présente l'importance de cette institution.
C'est à travers l'Union panafricaine de la jeunesse que les dirigeants prennent la température, la volonté et les préoccupations de la jeunesse africaine. Et également à travers cette institution que l'Union africaine prend le souhait et l'orientation et les préoccupations des jeunes africains. Et la marge de manœuvre ne sera rien d'autre que de s'inscrire dans une dynamique, donc, de plaidoyer, de suggestions et de propositions.
La crise sécuritaire a été abordée lors de cette rencontre avec les journalistes. Et le président de l'UPJ déplore les mouvements de jeunes à ces derniers jours. Moumouni Diallo, président de l'Union panafricaine de la jeunesse.
On est dans un continent où les gens mettent en avant leur intérêt personnel, leur ego, leur individu. Tout le calcul est basé sur comment j'ai fait pour m'en sortir, même s'il faut liquider tout le continent. C'est malheureux. Donc aujourd'hui, nous devrons tous déplorer cela. Et le travail que nous avons à faire, dans un premier temps, c'est le travail de conscientisation. Vous voyez, les gens en Afrique, tout le monde veut vivre dans le confort, même si seul on vit dans le confort et tous périssent donc en enfer. Et ça, le véritable problème.
L'Union panafricaine de la jeunesse est un organe consultatif de l'Union africaine et la structure d'interface entre les jeunes africains et les institutions internationales. La durée du mandat est de 3 ans.
Les Émirats arabes unis veulent aider les femmes à atteindre l'autonomie financière. Ils ont offert à plusieurs associations féminines du matériel, notamment des machines à coudre. C'était hier à Ouagadougou. Il s'agit de les aider à booster leur métier. Marina Ouedrago et Aziz Zoulabo pour le compte-rendu.
Le don des Émirats arabes unis, grand pays producteur et exportateur de pétrole, est composé de machines à coudre et de métiers à tisser. Ce sont environ 15 000 femmes qui bénéficient de ce programme soutenu par les Émirats. Fahad Obeid Al-Tafak, ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Burkina.
Eux, ils sont là aujourd'hui pour appuyer les relations qui lient entre les Émirats Arabes Unis et le Burkina Faso. En effet, avec le leadership de Cheikh Zayed Mohamed Ben Zayed des Émirats Arabes Unis et son Excellence Roch Christian Kabore, ils sont en train de consolider maintenant les rapports et les relations de coopération et du développement qui sont vraiment à même d'aider, participer au développement de nos pays.
Cet acte renforcera certainement les liens de coopération entre les Émirats Arabes Unis et le Burkina Faso et qui fait encore plus de bonheur des bénéficiaires. Léontine Zouma.
Ces métiers vont servir aux femmes vraiment de travailler et de s'auto-prendre en charge et de pouvoir s'occuper de leurs enfants et de leurs maris dans la vie sociale. Et ce que je dirais plus, c'est lancer une invitation aux femmes de bien vraiment utiliser le matériel qu'elles ont reçu vraiment pour pouvoir travailler et s'auto-prendre en charge.
En plus de l'autonomisation, les Émirats Arabes Unis comptent intervenir dans plusieurs domaines d'activité comme les mines, les infrastructures et l'agriculture.
Les agents de CIM Burkina donnent leur sang pour sauver des vies. L'entreprise a organisé jeudi un don de sang sur son site, la zone industrielle de Kossolo. Il s'agit pour CIM Burkina de venir en aide aux malades dans cette période de forte demande. Le compte-rendu de Jean-Paul Ouedrago et Hervé Mbayam avec la voix de Mariam Soma.
C'est dans la matinée de ce jeudi 18 novembre 2021 que l'entreprise de fabrication et de distribution du ciment CIM Burkina a réuni son personnel pour un don de sang afin de sauver des vies dans les centres de santé. Devenu une denrée rare, le sang est beaucoup recherché pour sauver des malades et les femmes enceintes dans les maternités. Une réalité qui n'ignore pas du tout le personnel sorti nombreux pour ce geste. Doris Woba, responsable du centre de santé de CIM Burkina.
Alors c'est une toute petite équipe mais qui fait des grandes œuvres sur le secteur du ciment. Mais c'est quand même une politique, comment je veux dire, humaine, parce que être en train de fabriquer du ciment, amener le délégué du personnel à sensibiliser tous ceux qui travaillent dans la société, depuis la direction générale jusqu'à la guérite, de poser cet acte fort est quelque chose qu'on doit apprécier, qui sont inhérents à ce qu'ils devraient faire, mais ils pensent quand même à des êtres humains. Et s'ils ont accepté de se sacrifier ce matin, de façon bénévole, chacun est venu sans pression, je pense que c'est un acte fort que la société, qui sait à ce qu'ils ont à faire, ont quand même mis un petit temps pour faire ce don-là, pour sauver des vies humaines. Et ça s'apprécie.
Cet acte noble du personnel est soutenu par le directeur général de CIM Burkina, Bischof Berger Andreas.
Bon, c'est un acte des travailleurs qui a voulu le faire. Et nous, comme CIM Burkina, nous supportons évidemment cette action très noble des travailleurs et que beaucoup sont venus faire le don. Et en tout moment, chacun de nous pourra avoir la nécessité. C'est très bien qu'ils aient fait ça volontairement.
Une centaine de poches de sang est donc attendue de cette activité. Les organisateurs promettent d'autres séances de collecte de sang.
La plateforme nationale d'information pour la nutrition a été présentée ce jeudi 18 novembre aux acteurs qui luttent contre la malnutrition au Burkina. Une plateforme qui va permettre d'accéder à un éventail de données et d'informations en matière de nutrition. Le point avec Valérie Guéret.
La plateforme nationale d'information pour la nutrition va permettre aux acteurs de la santé de lutter efficacement contre la malnutrition. Cette plateforme web dispose désormais des données sur l'évolution déterminante de la malnutrition chronique dans la région de l'Est. Mais les défis restent énormes selon le ministre de la Santé, Charles-May Ouedraogo.
Nous avons encore du chemin. Nous avons fixé des seuils et des défis à relever d'ici 2029. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons la dynamique, ça nous rappelle qu'il faut que nous puissions intensifier l'intervention si nous voulons respecter l'échéance de 2029 pour la malnutrition aiguë qui doit être de 5% et aussi la malnutrition chronique qui doit être de 15%.
Cette plateforme va servir de vitrine pour diffuser l'ensemble des informations sur l'actualité, les micro-données et les indicateurs en lien avec la malnutrition, a expliqué le directeur de l'informatique et de management de l'INSD, Nakelse Pascal.
Ce site est accessible à travers le lien www.nutrition.bf. Donc à travers cette adresse, vous pouvez accéder à une panoplie en tout cas d'informations sur la nutrition, que ce soit sur l'actualité et les indicateurs du plan stratégique multisectoriel en matière de nutrition et aussi d'autres indicateurs liés avec la nutrition au niveau de notre pays.
Ce site est une application web accessible sur l'ensemble des supports électroniques.
La revue de presse.
L'insécurité demeure au cœur de l'actualité. Les journaux du jour donnent diverses appréciations. Entre autres, faire un audit des dépenses des forces armées nationales. Il faut arrêter de vagir et passer aux sanctions. Des confrères qui invitent aussi à faire attention aux exigences de démission du président du Faso qui sont empreintes d'esprit mal intentionné. Et hors de chez nous en Côte d'Ivoire, sommet de la CEDEAO sur le terrorisme. Les populations n'attendent que du concret selon le confrère Le Pays. Plus de détails avec Asmao Dao.
La situation sécuritaire demeure le principal sujet sur lequel opinent les confrères. Dans sa chronique du jour, Sidoya tient des propos durs, comme noté ici. Il faut arrêter de vagir pour agir et réagir à la hauteur des capacités de nuisance du vis-à-vis, qui n'est d'ailleurs personne d'autre que nous-mêmes. Mon pays est devenu la caverne du Platon. Pendant que les uns prennent des ombres pour la réalité, les autres ramènent la réalité à un imaginaire débonnaire. C'est suicidaire, mais quand nous toucherons le fond, nous remonterons aussitôt à la surface pour savoir apprécier le souffle de vie qui manque à notre survie. Le pays se demande si le manque de vivres qui est posé à Inata n'est pas que la partie visible de l'iceberg. Le confrère plaide personnellement pour un audit des dépenses de l'armée en matière d'achat d'équipements militaires et autres. Le confrère Le Quotidien, dans sa rubrique Myria, invite à faire attention aux exigences de démission du président du Faso à travers sa réflexion écrite ici entre les lignes. La démission du président du Faso sera-t-elle la solution aux problèmes terroristes? Ce n'est pas certain. Celui qui viendra après Roch Kabore sera-t-il vraiment la solution aux problèmes terroristes? Pas certain. Ce qui est par contre certain, c'est que le contexte actuel où on a l'impression que le pouvoir tangue au regard de son incapacité à combattre sérieusement le terrorisme, des hommes politiques et autres adeptes de la courte échelle souhaitent la chienlit dans l'espoir d'atteindre des objectifs. C'est la raison pour laquelle chacun doit faire attention aux actes qu'il pose et qui peuvent nuire à la cohésion sociale, mentionne le journal. On termine cette revue à l'international avec le confrère Le Pays qui titre « Réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO à Abidjan sur le terrorisme. Les populations meurtries n'attendent que des résultats. L'heure n'est plus au long discours, mais à l'action pour faire changer la peur de camp. »
Et c'est la fin de ce journal réalisé par Adama Konaté à la retransmission Facebook Chalda. Présentation Jamila Topin. Merci de l'avoir suivi et restez connectés sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.